Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Vous avez peut-être vu dans l'actualité cette marche blanche de Québec pour la création d'un registre des délinquants sexuels. Je trouvais que c'était intéressant donc d'en parler, surtout à la lumière des dernières nouvelles. Je regarde toujours ce qui se dit sur les délinquants sexuels, les prédateurs sexuels, les pédos qui rôdent. Parce que j'ai des filles, parce que c'est inquiétant, parce que oui, c'est vrai qu'on en parle plus. Est-ce qu'il y en a plus? On n'est jamais très sûr de ça. On dit qu'en général, on en parle plus parce qu'on est plus au courant de la chose. Une chose est sûre, c'est que là, il y a un délinquant sexuel, Robert Perron, qui a été libéré en octobre dernier. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi, parce que quand on lit son dossier, on aurait quasiment envie de dire, ma foi, vous auriez dû le garder en dedans. Là, il a purgé sa peine. Il veut refaire sa vie dans l'anonymat et il veut changer de nom. De Robert Perron, il veut s'appeler Robert Lévesque. Il a fait ça en catimini, il a demandé vraiment un changement de nom. Vous savez que vous pouvez le faire à la direction de l'État civil. Apparemment que ça coûte 138 $. Je pensais que c'était plus cher que ça. J'avais déjà lu une époque, c'était 2000 $. J'ai rendu 138 $. Finalement, c'est assez facile. Tu remplis un formulaire. Puis là, tu publies ton intention de changer de nom sur le site du directeur de l'État civil. Et voilà. Et là, M. Perron, lui, a fait ça sans, bien sûr, avertir qui que ce soit, sauf qu'on l'a su. On l'a su et ça fait réagir, entre autres, mon invité, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui déjà, depuis au moins une dizaine d'années, réclame un registre des pédophiles qui existe dans certains autres États américains, par exemple, aux États-Unis. Vous allez en Californie, vous pouvez savoir, vous nommez l'adresse, puis on va vous dire pédo ou pas pédo. Dans Floride, pareil. Merci d'être là, Pierre-Hugues Boisvenu.
C'est un plaisir d'être ici, puis je souhaite là aussi la bienvenue à tous les auditeurs.
Mario Larrivé-Côté est notre expert en délinquance sexuelle. Merci beaucoup d'être là, Mario.
Bonjour, Isabelle.
Bon, évidemment, quand on regarde cette histoire, on se dit, voyons, c'est sûr. Puis moi, j'entendais des gens aux nouvelles qui témoignaient, parce qu'en plus, il y en a un autre là, cette semaine, là, en Estrie, de Poton en Estrie, c'est ça comme ça qu'on dit?
Poton
en Estrie, qui, lui, habite chez sa conjointe, qui est à côté d'une école, d'une garderie. Il a été reconnu coupable d'attouchement sexuel sur une petite fille de 6 ans. Il a toujours dit qu'il avait pas
Inni.
Été... Ouais, Inni. Lui, il dit non, j'ai rien fait. Et là, il dit, moi, il n'y a pas question que je comprends pas pourquoi le monde s'énerve avec ça. Ils n'ont pas raison d'avoir peur. Et là, évidemment, bon, les gens le disent, ça nous inquiète. Donc, on regarde ça, puis on se dit, l'autre qui veut changer de nom. Comment vous réagissez, Pierre-Hugues, là-dessus?
Bien, je pense que c'est le comportement d'un prédateur sexuel. Aujourd'hui, c'est Internet, c'est l'anonymat. C'est de même que ces jeunes filles-là se font prendre au jeu. Et de vouloir changer de nom, de vouloir se camoufler dans le paysage informatique, c'est tout à fait le comportement. Mais ce qui est inquiétant surtout, c'est que, vous savez, le Québec compte pour 22 % de la population canadienne, puis on compte pour 45 % des agressions sexuelles sur des enfants. Le Québec est champion en toute catégorie sur les agressions sexuelles. Moi, juste depuis cette histoire-là est sortie, à tous les jours, c'est des dizaines d'adultes qui m'appellent puis qui me disent comment ils ont été agressés, comment les enfants de leur environnement ont été agressés. C'est comme une espèce de poison là dans certaines régions du Québec. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a aucun moyen de prévention.
Vous dites que 45 des agressions sexuelles sur les enfants ont lieu au Québec?
Oui, oui, de tout le Canada.
Est-ce que c'est parce qu'on est trop laxiste?
Bien, d'abord, les provinces anglophones, depuis 2006, depuis la décision de la Cour suprême, se sont donné des outils, je dirais, de prévention. Le registre en est un. D'autres provinces ont affiché carrément la photo dans les médias quand la personne qui représente un danger, parce qu'on parle ici vraiment de 15 à 20 des gens qui sortent de prison et sont encore dangereux. Ouais. On affiche carrément leur photo. Et ce qu'on observe, c'est que dans ces provinces-là, il y a beaucoup plus d'arrestations préventives après la dénonciation de personnes qui voient un prédateur sexuel près d'une école, près d'un parc, d'une piscine. Alors qu'au Québec, l'arrestation se fait souvent une fois que le crime est commis. D'ailleurs, le fameux registre national des prédateurs sexuels né au Québec, utilisé par les policiers, quand un crime est commis. On n'a pas d'outils de prévention à offrir aux parents, à offrir aux écoles, à offrir aux gens qui travaillent avec des enfants qui veulent les protéger. Il faut que ces gens-là aillent vers la police et demandent le record de la personne à savoir si le
crime est commis. En même temps, bon, c'est compliqué, puis on ne veut pas que tout un chacun commence à partir après quelqu'un qui a l'air louche, puis qu'on pense que peut-être il est pédo. Mario Larrivé-Côté, là-dessus.
En fait,
moi, ce chiffre-là, 45
%. Faut faire attention des fois à ces chiffres-là. Oui, 45 %, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est parce
parce qu'il y a justement plus de dénonciations au Québec comparativement aux autres provinces. Peut-être qu'il y en a peut-être autant d'agressions sexuelles dans les autres provinces, sauf que les gens dénoncent peut-être moins. Il faut faire quand même attention.
Sauf Mario, quand on est du simple au trip, la dénonciation n'est plus le seul facteur. Hein? Ce qu'on observe dans les provinces anglophones, c'est surtout dans les communautés autochtones où il y en a beaucoup. OK? Ça, on se le cachera pas. Mais lorsqu'on sort des communautés autochtones, on parle des communautés plutôt blanches, le nombre de la différence ne justifie pas juste la dénonciation des victimes. Il y a au Québec, je veux dire, une espèce de comportement historique où les pères, où les nouveaux conjoints, hein, c'est souvent le pattern, le nouveau conjoint entre dans une famille, il y a des enfants.
Oui, parce que j'allais dire, là-dedans, il y a beaucoup d'agressions dans les familles.
C'est ça, mais de là, l'idée...
L'idée du pédo inconnu qui vient dans un quartier puis qui agresse les enfants.
Parce que Pierre-Hugues, tantôt, parlait de surveillance par rapport, mettons, au parc, aux écoles, aux terrains publics, aux garderies, tout ça. L'aspect de prédateurs sexuels qui composent cette clientèle-là, ça représente à peu près 10-15% des délinquants sexuels. À peu près 85 ou 90% des délinquants sexuels sont des gens qui connaissent très bien l'enfant. Donc, ça va être un membre de la famille, ça va être un voisin, ça va être un ami, ça va être un entraîneur, ça va être un professeur. Donc, à ce moment-là, l'aspect de savoir où habite le délinquant sexuel, je trouve que ça donne pas grand-chose.
Ouais, mais dans le cas du gars qui veut changer de nom, pourquoi?
Ça change rien. Cet individu-là, Robert Perron, par rapport à la police, de toute façon, eux autres, même s'ils changent de nom, ils vont savoir qu'il y a un alias. Ça va être,
oui, la police va le savoir, mais pas les gens.
Oui, mais dans la réalité, dans ce cas précis...
Le restaurateur qui l'a embauché, il était se présenter chez lui sous le nom de Lévesque, même s'il n'avait pas changé de nom. Hein? Il dit, moi, j'ai vérifié, Lévesque, s'il avait un dossier criminel. Mais le plumitif, lui, il change pas quand le gars change de nom.
Pour se trouver une job, c'est une chose. Mais par rapport à commettre un crime à caractère sexuel, si on parle du dossier Robert Perron, c'est un gars qui a leurré des adolescentes de 14-15 ans. Quand on parle de leur informatique sur Internet...
Il leurre deux personnes. Le gars Perron, qui rentre, un exemple, là, ou un autre gars qui rentre dans une famille avec une nouvelle conjointe, d'abord, il va leurrer la mère de famille pour ensuite, veut dire, abuser des enfants. Il y a deux formes d'abus qui se fait là. Et si la dame, un exemple, elle dit, moi, je veux savoir le passé du monsieur, hein? Est-ce que je peux avoir accès...
D'abord, il s'est présenté sous un faux nom, déjà, c'est ce que vous voulez dire?
Mais je me souviens d'une dame en Beauce, elle rencontre un nouveau conjoint. Ouais. 6 mois après, elle se fait assassiner.
Oui, mais là...
Là, on découvre que le gars, il y a un dossier long comme le bras d'abus sexuel sur deux autres conjointes avant. Mais si cette dame-là aurait eu accès à un minimum d'informations sur son passé criminel... Possiblement qu'elle serait pas, elle n'aurait pas entré en communication avec, ou son environnement lui aurait dit, fais attention, ce gars-là, c'est un dangereux.
Oui, mais sur le même principe, là, on ne parle pas d'une relation de couple de 15-20 ans, ça faisait 6 mois qu'elle connaissait. Est-ce que quelqu'un qui... Bon, un homme rencontre une femme, est-ce que automatiquement quand on connaît la personne, on lui demande son nom, on lui demande ses cartes d'identité? Pas nécessairement. Fait que la personne peut facilement donner, à la limite, un faux nom. J'en ai, ça fait plus que 20 ans, Isabelle, que je travaille dans le domaine, même actuellement, j'ai des individus que, surtout les plus jeunes, dans la vingtaine, dans la trentaine, souvent vont avoir les deux noms de famille, le nom du père et le nom de la mère. Si se sont fait arrêter puis que leur dossier a été médiatisé, souvent, ils n'utiliseront plus les deux noms, là. Ils vont utiliser juste un nom. À ce moment-là, ils retombent en quelque part dans leur anonymat.
Mario, si on revient au cas Perron, le juge l'a inscrit au registre des prédateurs sexuels à vie.
Des délinquants sexuels.
À vie, parce qu'il le considérait comme très dangereux.
Que moi, quand j'ai lu ça, ça m'a quand même fait réfléchir. Bon, on dit qu'en 2014, il a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de leurre, de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels. Il a également eu des relations sexuelles complètes avec certaines de ses victimes. On lui reproche, entre autres, en 2008 et 2013, à Alma, au Lac-Saint-Jean, d'avoir agressé 4 jeunes filles de 14 et 15 ans, aussi d'avoir leurré des ados sur Internet avec parfois une rétribution. Ça, c'est tout dans le jugement de la Cour du Québec. Attends. Puis il a également été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure de 13 ans et a écopé d'une sentence suspendue assortie d'une probation de 3 ans. On estime qu'il a une dangerosité sociale élevée. On dit... effectivement, là, quand on lit l'extrait là, du rapport de décision de la Commission de libération conditionnelle qui date de l'automne dernier, Voici ce qu'on lit. Moi, sincèrement, je m'étonne qu'on arrive quand même à libérer quelqu'un comme ça. C'est quant à votre incarcération au fédéral, ça, évidemment, le rapport est toujours adressé aux détenus. Votre équipe de gestion de cas fait état d'une attitude impulsive et réfractaire à l'autorité. La commission note que la majeure partie de vos énergies vont à l'encontre des intervenants du Service correctionnel du Canada et de la commission plutôt que sur votre processus de réinsertion sociale. Les outils actuariels utilisés indiquent un risque modéré élevé de récidive sexuelle. Et entre mars 2014 et la saisie de son ordinateur, on a relevé 6 autres victimes potentielles qui, heureusement, mais, parce qu'il a été arrêté, n'ont pas été agressées. Mais ce gars-là, on dit, il est dangereux sexuellement.
J'ai aucun problème à ce qu'il ne puisse pas changer de nom, l'individu, là, Robert Perron.
Mais moi, je dis, comment se fait qu'il est libéré?
Parce qu'il a fait toute sa sentence. Et c'est là qu'est le problème.
C'est parce qu'à l'époque, il aurait dû déclarer peut-être délinquant contrôlé.
C'est là qu'est le problème.
Parce que ça n'a pas été demandé.
Mais c'est là qu'est le problème.
On est ça a été refusé.
On est devant des gens qui ont une déviance, hein, manifestement, et on n'a pas d'outils de contrôle post-sentence. C'est ça le problème. Le registre devient un outil. Je ne dis pas que c'est l'outil idéal. C'est un outil parmi d'autres pour s'assurer que dans un milieu donné, moi, je veux savoir, je suis entouré de combien de gens qui sont dangereux. C'est ça que je veux savoir, moi. Et l'État, si elle ne réussit pas à réhabiliter un gars de même, elle a la responsabilité d'informer la population. Il va avoir d'autres victimes. Il va en avoir d'autres.
Ça ne change rien.
Oui, ça change quelque chose. Parce que dans les
provinces anglophones... Pourquoi tu dis que ça ne change rien, Mario, l'arrivée côté?
Dans chaque secteur du Québec... Il y a des délinquants sexuels. Il n'y a pas un coin dans le Québec qui en a pas.
On a tous un pédophile comme voisin.
On est en campagne électorale, là, actuellement. C'est à chacun son pédophile ou on a tous un pédophile pas loin de chez soi.
Mario, explique-moi pourquoi, dans ce cas-là, dans les provinces anglophones, il se fait 2-3 fois plus d'arrestations préventives qu'au Québec. Je veux juste que tu m'expliques pourquoi. Parce que les parents, ils voient quelqu'un sur le bord d'un McDonald's ou dans un parc et sa photo a été publiée dans les médias en disant « Faites attention, c'est un dangereux. » Et ils vont tout de suite appeler les policiers. Bris de probation, on le ramasse.
Oui, mais
c'est-à-dire ce qui est délicat,
préventif, ça ne veut pas nécessairement dire que l'individu avait l'intention de commettre un nouveau crime.
C'est pas ça, je te dis. Je te dis, le Québec est champion en matière de criminalité par rapport aux enfants et le Canada anglais est champion en matière d'arrestation préventive.
À l'inverse.
C'est ça, je te dis.
J'habite dans un secteur X, puis là, je suis au courant que M. Chose, lui, il habite 2 rues à côté de chez nous.
Puis c'est un pédo ou un délinquant sexuel.
Puis t'as la photo à jour.
Bon, OK.
OK. Tu dis quoi à ton gars?
En fait, c'est deux choses. La première, c'est qu'on pèle le problème chez le voisin, dans le sens où est-ce que cet individu-là, s'il veut commettre un crime, là, il y a des grosses chances qu'il ne commettra pas à côté de chez eux, parce que là, il sait qu'il est ciblé. Mais ça ne l'empêchera pas de commettre un crime dans un autre secteur. On fait simplement pelleter le problème
ailleurs.
C'est
bizarre que ces gars-là vont toujours déménager à côté d'une garderie, d'un CPE ou d'une aréna où il y a plein d'enfants.
Tu m'expliquer pourquoi?
Tu vas me dire, il y a des enfants partout, mais...
Oui, effectivement,
il
y a des enfants partout, des garderies partout,
il y a des écoles partout. C'est pas tout le monde qui habite à côté
d'un
parc. C'est pas tout le monde qui habite direct à l'école.
Effectivement, mais un individu qui veut réellement récidiver, quand même qu'on utiliserait n'importe quel moyen, il va récidiver quand même. Là, on parle, si on revient sur le cas de Perron, s'il voudrait faire de la pornographie juvénile, consommer de la pornographie juvénile, quand même qu'il y aurait l'identité qu'il voudrait.
Il
va en consommer pareil. S'il
clair.
Veut leurrer d'autres filles comme il a fait, de toute façon, quand ces individus-là leurrent des ados sur Internet, de toute façon, ils ont une fausse identité. Peu importe l'identité qu'il va avoir, il va avoir une fausse identité de toute façon s'il retourne sur Internet.
Le sentiment d'insécurité de bien des gens, il y a des cas de cette semaine dans l'actualité, c'est qu'ils disent, on veut le savoir, on veut être capable de prévenir et de faire en sorte que nos enfants ne soient pas à la merci de ces gars-là. Après, moi, je comprends le bout de dire, c'est délicat.
C'est une fausse illusion de sécurité.
Non, c'est pas faux.
Attendez, Mario, continue. Ouais.
C'est une fausse illusion de sécurité dans le sens où est-ce que on sait où est-ce que l'individu habite, mais comme je disais tantôt, il va aller agresser dans un autre secteur s'il veut. Puis de toute façon, s'il veut se mettre ami avec le dossier d'Yves Beaudoin, là, son lieu de résidence, donc où est-ce que, si mettons, il y avait un affichage public, son lieu de résidence serait où est-ce qu'il habite, à Asbestos.
Ouais.
Il est à 115 km de sa conjointe, de sa blonde. Fait que dans le coin où est-ce que sa blonde habite, si mettons que les gens ne l'avaient pas su, il passe inaperçu, là. Fait que dans la réalité, l'individu, s'il veut commettre un crime, s'il a l'intention de commettre un crime, peu importe le moyen utilisé, il va le commettre quand même. Là.
Mm-hmm. Je reviens à la question de base. Pourquoi qu'au Canada anglais, on a plus d'arrestations préventives avant qu'un crime soit commis? Et pourquoi qu'au Québec, on a 2 fois plus d'agressions sexuelles sur les enfants? C'est ça le raisonnement de base. On est champion, on est dernier de classe en termes d'arrestation préventive, on est dernier de classe en termes de crimes contre les enfants. On peut-tu se donner des outils de prévention? Oui,
on va aller à la pause là-dessus, si vous voulez bien, mes amis, puis on va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. Est-ce que on devrait interdire aux délinquants sexuels de changer de nom pour éviter, parce qu'eux le demandent, pour éviter qu'ils soient pointés du doigt? Alors, comment vous voyez les choses? Ce sentiment d'inquiétude vécu par beaucoup de familles de jeunes et moins jeunes enfants, vous en pensez quoi? 514-790-9850. Il y a toujours cette demande qui revient. Il y a d'ailleurs une marche à Québec en fin de semaine pour la création d'un registre de délinquance sexuelle. Pensez-vous que ça changerait quelque chose? 514-790-9850. Et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Est-ce qu'il faudrait permettre aux délinquants sexuels de changer de nom pour qu'ils ne soient pas pointés du doigt ou qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières? C'est vrai que c'est l'autre côté qu'on n'a pas tout à fait discuté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le gars qui veut vraiment être réhabilité, puis au Québec, je vous rappelle qu'on est plutôt dans une réhabilitation, dans un processus de réhabilitation. On souhaite que les gens qui ont commis des délits puissent réinsérer la société plus facilement. C'est sûr que si on lui colle toujours cette étiquette de pédo, d'agresseur, de délinquant, c'est dur à vivre. En même temps, il y a la sécurité des familles, des enfants surtout, et l'inquiétude des familles. Hugo, comment vous voyez ça, vous?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, moi, je suis le père de deux jeunes enfants, 4 ans et 2 ans, deux garçons. Et moi, mon inquiétude, c'est pas tellement au niveau du nom de la personne, mais plutôt au niveau du taux de récidive de ces délinquants-là. C'est que si, puis je le connais pas, là, peut-être que vos invités peuvent répondre à ma question, mais si le taux de récidive est assez élevé, qui change de nom, ça change absolument rien. Là.
Mario?
Effectivement. C'est pour ça que je mentionnais tantôt, il n'y a pas vraiment de recette miracle à ce niveau-là. Un individu qui a un risque de récidive, je dirais, élevé, généralement, il y a des fortes chances qu'il récidive de toute façon, là. C'est certain que si, parce que en termes de délinquance sexuelle, il y a différentes cotations au niveau du risque. Ça peut être, le risque peut être faible, le risque peut être modéré, le risque peut être élevé. Bon, il y a différentes catégories. C'est sûr que les individus à risque élevé, souvent on a affaire justement à des prédateurs sexuels, à des gens qui s'en prennent à des victimes inconnues. Donc, ces individus représentent à peu près 10-15% des délinquants sexuels. Les autres, qui représentent 85-90%, qui s'en prennent à des victimes connues, comme j'ai mentionné tantôt, ben c'est effectivement, c'est des gens qui sont proches de leur entourage. Ces gars-là, généralement, quand ils sont judiciarisés, quand ils sont traités, récidivent pas. C'est ceux qui, effectivement, font plus de la prédation sexuelle puis qui sont pas traités, qui, effectivement, vont plus récidiver.
Écoute, il y a eu un problème. Merci, Hugo. Puis je sais pas si Nancy veut enchérir là-dessus, mais moi, je trouve qu'il y a un problème. Le gars en question, Robert Perron, Il y a eu contact directement, il y a eu agression sexuelle sur des adolescentes. À un moment donné, on le voit, là, ça avait même fait la une du Journal de Montréal. On le voyait parce qu'il y a eu une enquête, là, puis tous les renseignements avaient été transmis à cyberaide.ca, qui est une centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Puis on le voyait là, clairement payer le taxi d'une jeune fille de 13 ans qui venait de leurrer. Puis là, tu te dis, puis on rappelle encore ce matin que la commission disait, malgré l'imminence de la fin de votre sentence, la commission ne saurait tolérer votre comportement déviant, considérant votre risque de récidive et votre dangerosité sociale très élevée. Je répète, qu'est-ce que ce gars-là fait dehors? Nancy, comment vous réagissez à quoi quand vous entendez ça?
Ben moi, c'est sûr que je suis pas tout à fait d'accord à ce qu'il soit sorti non plus. Mais en situation générale, je dirais que de changer de nom ou non, ça a très peu d'importance. J'habitais dans une autre ville avant, et puis là, je suis déménagée. Je ne savais pas, j'ai déménagé à deux maisons d'un pédophile. Moi, j'ai trois enfants. Quand je l'ai su, ça m'a pas, j'ai pas paniqué parce que je surveille mes enfants et j'ose jamais dans la rue ou dans la cour sans que je sois là. Dans la ville où j'habitais avant, je voyais souvent des enfants de 8-9 ans jouer tout seul au parc. Donc, tu sais, d'après moi, je me dis que c'est beaucoup moins dangereux, même s'il y a un pédophile alentour, si je suis présente.
Oui, mais en même temps, vous pouvez pas être toujours dans l'ombre de vos enfants. Tu sais, c'est... je sais pas vous, quand vous étiez petite, mais je veux dire, avant, peut-être qu'on n'avait pas confiance, puis qu'il y en avait autour. On a tous des anecdotes, ou en tout cas, il y a beaucoup
d'anecdotes. C'est ça que je pense, qu'on n'avait pas conscience avant, puis que là, on en a plus conscience. Donc, quand on a conscience des choses, on panique plus, autant que, tu sais, on peut habiter à côté de quelqu'un, puis qui décide de tirer ou ouais. de n'importe quoi. Là, on n'est pas prêt, on n'est pas en sécurité, pas en sécurité, là, mais on n'est ouais. pas à l'épreuve de tout.
Mais je comprends que vous dites aussi, il faudrait donc se calmer un peu aussi. Il faudrait calmer nos insécurités. Ouais. Merci beaucoup, Nancy.
Ce que a changé la donne, c'est Internet. Internet est maintenant la porte d'entrée de millions de pédophiles vers des enfants, vers les réseaux sociaux. Et ça, dans le fond, là, ça demande au gouvernement une très grande transparence dans la gestion de ces cas-là, parce que tôt ou tard, ces gens-là vont retourner chez eux, vont réutiliser les mêmes outils. Et l'heure d'enfants, c'est le crime le plus en augmentation à Montréal. C'est 30 % juste en 2012. Il y a à peu près une quinzaine de policiers à Montréal ne font que ça, suivre les prédateurs sexuels sur Internet, parce que c'est le crime, veut dire, qu'il est le plus en augmentation.
Valérie, bonjour. Votre opinion bonjour. Là-dessus. Est-ce qu'on devrait permettre à ce délinquant sexuel dont on croit qu'il est assez dangereux, potentiellement récidiviste, est-ce qu'on devrait lui permettre de changer de nom?
Aucunement. Aucunement. Puis je peux pas croire que quelqu'un peut être d'accord avec ça. Puis moi, je me dis, regarde, la réhabilitation, excusez-moi, j'y crois plus ou moins. Mais on parle pas d'un toxicomane ici ou qui commet des crimes pour souvenir à sa consommation. Non, on parle d'une pulsion sexuelle, d'une problématique grave sexuelle que je ne crois pas qu'il puisse se guérir. Et j'embarquais pas plus là-dedans pour mon opinion personnelle parce que ça serait très cru ce que je ferais à ces gens-là. Alors, au moins, en ayant le nom, ça peut toujours bien permettre d'être informé, justement. Ça a été médiatisé. Puis, mon opinion concernant là, ce que vous parliez tantôt, pourquoi qu'en Ontario, il y a plus d'arrestations préventives, bien, c'est parce que les services de police, le gouvernement ou la mentalité là-bas mettent les outils en place pour ça et la main-d'œuvre, si on veut. Si les services de police voudraient, ils mettent des. Bien, il y en a, en fait, des escouades qui font ça, mais pas assez, compte tenu le nombre d'agressions sexuelles. Mais ces gens-là, quand ils sont vraiment en liberté, ils ont des conditions à respecter.
Oui.
Fait que si tu mets des policiers en observation sur eux autres, c'est facile de les voir briser une condition. Et là, ils rentrent en dedans. C'est ça, le côté préventif. C'est pas qu'ils étaient sur le bord de commettre un délit sexuel. Des fois, oui, mais souvent, c'est là que c'est gonflé, les chiffres préventifs. Mais moi, je me dis qu'en dedans, ben, il n'en fera pas de victimes. En tout cas, ça sera toujours pas des mineurs. Puis ça va
Et on a malheureusement des cas ici au Québec où des récidivistes ont justement...
Mais c'est une
agressif, je veux dire, Pierre-Luc Boisvenu, c'est votre bataille depuis ce qui est arrivé à votre fille.
Les données produites par le ministère de la Sécurité publique du Québec, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 4 fois plus de prédateurs sexuels dans les prisons en comparaison aux pénitenciers, parce que les sentences sont souvent moins de 2 ans. Et le taux de récidive que la ministre de la Sécurité publique, le gouvernement du Québec a rendu public en décembre 2016, 54 % reviennent en prison.
Ouais. On a Marie avec nous. Bonjour, Marie.
Bonjour. Moi, je suis évidemment pas d'accord pour qu'il puisse changer son nom. Mais moi, ce que je comprends pas, là, voulez-vous m'expliquer pourquoi est-ce qu'on change pas les lois, puis pourquoi après une fois c'est assez, la deuxième ça passe pas. Un gars qui s'excite à regarder un enfant de 2 ans, là, vous pouvez pas y changer ça, puis il dit tu vas t'exciter maintenant, tu vas regarder un homme de 60 ans. Ça marche pas. C'est ça qui l'excite, ça changera jamais. C'est pas une maladie, ça là, c'est une déviance. Fait que pourquoi est-ce qu'on met pas des sentences? Moi, tous ces gars-là, là, pourquoi est-ce qu'on les garde pas en prison? Pourquoi est-ce qu'on les fait sortir puis qu'on met à risque nos enfants?
Ouais. C'est une très bonne question.
Pour donner une chance aux gars, on va mettre à risque nos enfants.
Mais j'ai Mike qui m'écrit. Quand la peine est purgée, le gars, il est présumé avoir payé sa dette à la société. Donc, le type qui veut changer de nom a le droit de le faire. Puis moi, je le comprends. Ça, c'est Mike qui écrit ça. On peut pas ostraciser quelqu'un pour le reste de ses jours. S'il veut travailler, s'il veut se réhabiliter, comment va-t-il pouvoir le faire? À un moment donné, il dit qu'il faut être réaliste. Mike dit ça.
C'est pas moi qui dis ça, c'est Mike. Parce qu'il n'est pas réhabilitable. Le fait qu'il n'est pas réhabilitable, c'est que le gouvernement, la Cour a décidé de le mettre sur un registre des prédateurs sexuels toute sa vie.
Mais Mario, tu disais tout à l'heure, je posais la question, pourquoi ce gars-là est dehors? Puis tu as dit, ben parce que personne n'a demandé à ce qu'il soit...
Ben en fait, c'est parce qu'à
comment
à,
ça se
à
fait?
L'époque...
Qui doit demander ça?
Ben c'est le procureur de la Couronne.
Oui.
Dans le fond, ils font une requête pour demander au juge à le déclarer délinquant à contrôler ou délinquant dangereux lors des procédures judiciaires. Dans son cas, à lui, il faut admettre que ça n'a pas été le cas. Donc,
voilà,
il a fait
pourquoi
tout.
Pourquoi ça n'a pas été le cas?
On le fait pas au Québec.
Non.
Les statistiques sur la déclaration de criminel contrôlé ou dangereux est deux fois plus utilisée dans l'Ouest canadien.
Oui,
mais on le fait quand même.
Mais on le fait quand même, oui. Il y en a quand même beaucoup qui sont déclarés délinquants contrôlés.
Très peu. C'est à peu près une dizaine par année.
C'est en fonction de la dangerosité des individus. Habituellement, c'est ceux qui sont à risque élevé qu'on va déclarer délinquants contrôlés.
Mais lui, écoute, je ne sais pas ce que ça leur prenait, là.
Ben là, c'est un choix que la couronne a fait à l'époque là, de pas faire cette demande-là. Ouais.
On a Alexandre, vite, en terminant, on termine avec vous, Alexandre. Votre opinion là-dessus, il change de nom ou pas?
Il ne devrait pas changer de nom. Mm. Puis je trouve que c'est ridicule que les sentences qu'ils reçoivent, là, on dirait, mettons, on va dire à peu près, en général, c'est un an et demi par tête, peu importe la durée de l'agression. Fait ouais. que je trouve que c'est un peu ridicule. Puis en plus, on paye pour ça, pour les envoyer en dedans. C'est pas dans le sujet, là, mais c'est ça, on n'a pas la peine de mort, mais mettons que ça pourrait s'appliquer.
Oui, mais bon, heureusement, on ne l'a pas.
Un autre débat.
Tellement. Oui, effectivement. Débat. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Pierre-Hugues Boisvenu. On rappelle cette marche, donc?
Oui, samedi prochain, on part du Cégep Garneau à Québec et on se rend jusqu'à l'Assemblée nationale. Le départ est à 13h, on s'habille en blanc. Et c'est pour demander aux partis politiques qui sont actuellement dans la course d'élection cette année de prendre position sur le registre des prédateurs sexuels dangereux. Je viens toujours le mot « dangereux ».
Oui. Merci beaucoup, Mario Larrivé-Côté, d'avoir été là. Merci bien. On s'arrête ici, très courte pause. On va parler des risques de respirer de l'arsenic dans l'air, de l'arsenic ou d'autres produits chimiques dans l'environnement. Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez? On ne parle pas beaucoup d'environnement, il faut le dire, dans cette campagne électorale. Ben, nous, on fait une émission verte aujourd'hui. Restez à l'écoute tout de suite. Après, on en discute.